La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. C'est le paléontologue le plus célèbre de France, l'homme auquel on doit la découverte du squelette de Lucie, ce fossile préhumain de 3,2 millions d'années. Yves Coppens publie ses mémoires enfin chez Odile Jacob et c'est un événement, l'occasion de retracer 80 ans de souvenirs, de voyages et de fouilles à la recherche, entre autres, de nos origines. Yves Coppens est mon invité dans un instant pour cette émission, donc en direct et en public, avec les élèves de la classe de 5e du collège Berlioz à Vincennes qui sont avec nous et que je salue chaleureusement. Et qui auront des questions à poser à Yves Coppens, tout comme vous, qui nous écoutez avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
Archéologie aussi à la Ligue de la Science, avec la découverte en Inde d'outils très anciens.
Oui, des outils de pierre vieux de 385 000 ans et très sophistiqués qui posent la question de leur origine. Pourquoi pas humaine ? On en discute avec le géomorphologue Yannick Gunel.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne consacrée aujourd'hui à la musique pour savoir si elle améliore la qualité du travail des médecins. Fanny Boyon réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Thomas Kalevitch.
Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Yves Coppens.
Bonjour.
Est-ce que c'est plus facile de fouiller dans ses mémoires ou dans le désert africain ? Qu'est-ce qui est plus compliqué finalement ?
Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça en ces termes. C'est pas simple les mémoires parce que ça oblige à mettre en ordre une vie qui n'est pas tellement en désordre, enfin quand même. Et surtout à faire que pour le lecteur, ce soit accessible, ce soit lisible. Et d'autre part, les mémoires, c'est forcément ses mémoires, ce sont forcément ses mémoires. Donc c'est toujours « moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela », ça c'est épouvantable.
Bon.
Donc comment atténuer ça, c'est pas très simple, je vous raconterai comment j'ai fait.
Archéologie moderne, on va dire, hein, de vos souvenirs finalement.
Bah, 80 ans, c'est pas très vieux, oui. C'est même pas 80 000, c'est lamentable.
Origine de l'homme, origine d'un homme, ce sont donc vos mémoires de la Bretagne à l'Afrique en passant par Paris. On en parle tout à l'heure après la Une de la Science et avec donc nos jeunes collégiens qui sont très impatients de pouvoir vous poser des questions. Yves Coppens, à tout de suite. Qui a donc taillé ces outils, ceux que nous entendons dans le casque, ceux d'Athiram Pakkam, ce site archéologique indien fouillé depuis plus de 10 ans. Une équipe de chercheurs indiens et français publie dans la revue Nature l'étude justement de plusieurs séries d'outils de pierre taillée découverts à partir de 2009 sur ce site proche de Madras en Inde. Certaines de ces trouvailles datées de 385 000 ans posent un vrai problème car leur méthode de taille dite levallois, attribuée jusqu'à présent aux Homo sapiens, ne colle pas du tout avec leur datation. Et on en parle, Axel, avec notre invité.
Oui, nous sommes avec Yannick Gunel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géomorphologue, professeur de géographie physique à l'université Lyon 2 et co-auteur donc de ces travaux. À quoi ressemble ce site que vous avez fouillé à Athiram Pakkam et duquel vous avez tiré plus de 6000 outils de pierre pendant plus de 10 ans ?
Alors, on peut dire que c'est un site de piémont. Un piémont, c'est une zone en pente entre des reliefs dans l'arrière-pays et le littoral, la mer. Et qui est traversée par des rivières qui transportent des débris, des alluvions, que les homininés qui ont fabriqué ces outils pouvaient ramasser en abondance et transformer sur place pour fabriquer ces outils mystérieux, je crois, vous avez eu raison de le souligner.
Pendant combien de temps est-ce que des hommes ou des pré-hommes ont cassé des pierres à cet endroit ?
Eh bien, nous avons une très belle stratigraphie, c'est ça qui rend ce site intéressant, c'est que c'est une stratigraphie sur à peu près 9 mètres de profondeur, et la partie inférieure, qui est la plus ancienne, contient des quantités importantes, des milliers de bifaces, qui ont été analysées en 2011, quand on avait publié ce travail. Et les âges obtenus pour cette partie de la stratigraphie remontaient à 1,5 million d'années, donc 1,5. Bon, il y a toujours des fourchettes, d'incertitudes autour des âges de datation. C'est normal et c'est habituel. Donc, on peut pas donner un chiffre plus précis pour l'instant.
Alors, parmi tous les outils que vous avez trouvés, certains sont tout à fait exceptionnels et sophistiqués. Ils sont datés à 385 000 ans, on l'a dit, et ils sont un casse-tête pour les archéologues. Alors, pourquoi ?
Ben, ce qui est intéressant dans cette stratigraphie, c'est qu'on peut retracer une évolution du bas vers le haut, qui est une évolution dans le temps vers le présent. Et donc, surmontant tous ces bifaces que je viens d'évoquer, il y a des outils et des assemblages que l'on décrit comme étant du paléolithique moyen. Donc c'est un nouveau palier technologique qui a été franchi, sans doute grâce à des évolutions cognitives, donc du cerveau.
Donc la datation, ça correspond à quoi, paléolithique moyen? On est à combien?
Eh ben, à travers le monde, c'est 200 000 à environ 40 000. Mm-hmm. Et en Inde aussi, ça rentrait dans cette fourchette-là, mais beaucoup plus récent, c'était 140 000, 46 000.
Et là, vous la datez à 385
000. Et là, à 385 000, jusque vers 170 000 dans cette séquence, puis on a plusieurs âges cohérents du bas vers le haut. On a des assemblages qui eux-mêmes évoluent au fil du temps. Donc les communautés locales ont manifestement elles-mêmes fait évoluer leur technologie. Mais ce sont des technologies qui produisent des outils de beaucoup plus petite taille. Donc il y a une miniaturisation et il y a une plus grande diversité par rapport aux bifaces, c'est-à-dire qu'il y a des lames, des pointes, des racloirs, des choses de ce genre qui, elles ont été trouvées en Afrique ou en Europe, peuvent être aussi anciennes, mais dans le cas indien, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi ancien. Et puis surtout, se pose la question, qui les a fabriquées? Et là, nous n'avons pas, pour l'instant, la réponse.
Yves Coppens, encore un mystère, décidément.
Oui, c'est fascinant. Vous savez, l'histoire, enfin pour moi, il faut savoir d'abord, bien avoir les chiffres en tête, les plus vieux outils, pour le moment, c'est 3 300 000 ans. 3 300 000 ans, un peu plus que Lucie. Excusez-moi. En Afrique, ils sont africains ceux-là, et en Afrique, les bifaces, les outils symétriques, apparaissent autour d'1,7 million à 1,8 million, 1,8 million. Or, ils n'apparaissent en Europe que vers 700 000 ans. Or, là, chez mon voisin, c'est quand même 1,5 million. Alors, ça signifie en tout cas quelque chose de très intéressant qu'on avait dit, mais dont on n'était pas trop sûr, c'est que l'homme se déploie à partir de l'Afrique, ça c'est incontestable, à partir de l'Afrique qui passe par où il peut, et en particulier par le Proche-Orient, par le Sinaï et le Proche-Orient, et puis là il se déploie d'abord vers l'Asie, avant de le faire vers l'Europe. Alors c'est pas un choix, hein. C'est parce que sur le plan géographique, il a été plus simple pour lui d'aller vers l'Est que d'aller vers l'Ouest, quoi.
Yannick Gnell, est-ce qu'on trouve des fossiles de notre lignée en Inde ?
Non, l'Inde est malheureusement très pauvre en fossiles. Il y a un morceau de crâne qui a été trouvé dans les alluvions du fleuve Narmada qui se trouve dans le nord, au nord de Bombay, pour situer, mais dont l'âge et le contexte est très controversé. Il n'était pas en place dans quelque chose qui, dans une fouille. Il s'est un petit peu promené, semble-t-il. Et en dehors de ça, pour l'instant, en Inde, il n'y a rien. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez cherché, ou est-ce que, ce qui est plus pour l'instant mon hypothèse, est-ce que l'Inde présente des conditions environnementales de conservation des vestiges comme les squelettes, qui sont moins bonnes qu'en Afrique, parce qu'il n'y a pas de volcanisme actif qui peut ensevelir, par exemple, les vestiges, parce que le climat, c'est quand même un climat de mousson humide, donc les choses se détériorent plus vite, peut-être, qu'en sur les hauts plateaux arides de l'Afrique de l'Est, et ainsi de suite. Voilà, donc des causes environnementales, je dirais, plus que intrinsèques.
Il faut écouter les géomorphologues.
Oui, mais c'est son cas, justement, effectivement. C'est bon de rappeler que c'est, votre discipline.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui pose problème, qu'on comprenne bien, par rapport à la datation, la 385 000 ans, avec cette méthode dite Levallois, c'est la position géographique, c'est justement ce que les hommes ne pouvaient pas, a priori, faire, les homo sapiens, en tout cas, à cette époque?
En fait, il y a deux hypothèses qui défraient un petit peu la chronique en ce moment, parce qu'il y a eu des commentaires dans la presse, des choses comme ça. On peut imaginer que des groupes humains vivant à la même époque que des cousins en Afrique ont eu la même idée. À force de tailler des cailloux pour leurs besoins, on peut observer que, tiens, si on fait ça, on obtient ça. Mmh. Et donc, ce serait l'hypothèse de ce qu'on appelle une convergence technologique. des idées qui ont, des gens qui ont la même idée au même moment à des endroits différents de la planète, sans avoir été en communication. Donc ça, alors si c'est ça la vérité concernant ce site, ça veut dire que, eh bien, il y a des variantes culturelles. À une même époque, parce que les assemblages sont pas absolument identiques à ce qu'on trouve en Afrique, et d'ailleurs, il faudrait faire des intercalibrations, parce que les gens se connaissent mal, les archéologues qui travaillent en Inde se connaissent mal ceux qui ont travaillé en Afrique et inversement, donc ça c'est un autre problème, ça.
Ça va venir.
Et l'autre hypothèse, alors qui a été un petit peu poussée par les publications de 2017 sur le Jebel Irhoud au Maroc, et puis la découverte en Israël tout dernièrement d'une mâchoire d'Homo sapiens datée à 180 000 ans, c'est que l'autre hypothèse, c'est que il faut vieillir Homo sapiens,
ouais.
Et qu'il serait peut-être sorti d'Afrique plus tôt. Que ce qu'on pensait jusqu'ici.
Allez, très vite, une dernière question.
Le site d'Atiramphakam, il est resté actif jusqu'à environ 74 000 ans. Et ça veut dire que pendant plus d'un million d'années, au même endroit, des humains et des préhumains ont cassé des cailloux. Je trouve que cette période de temps est énorme. Je trouve ça fascinant, moi.
Alors, disons qu'il y a ce gisement de galets, de quartzite, qui est presque inépuisable. Et je pense que, quand on a besoin de se nourrir, de chasser, etc., on a besoin d'outils. Et donc, ce gisement d'outils a certainement fixé, comme ailleurs dans le monde, c'est cette communauté. Mais c'est vrai que c'est très étonnant. Et il y avait peut-être des raisons environnementales aussi qui étaient attractives au bord de cette petite rivière où les gens débitaient leurs cailloux.
Merci beaucoup Yannick Gounel. En tout cas, je rappelle que vous êtes donc géomorphologue, professeur de géographie physique à l'université Lyon 2 et co-auteur donc de ces travaux. Axel, à demain.
À demain.
Et Yves Coppens, à tout de suite.
À tout de suite.
Thank you.
Voilà cette chanson d'Yves Simon de 83, reprise par Christine and the Queens, Amazoniac.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Yves Coppens publie ses mémoires et forcément c'est un livre attendu pour le public qui en a fait son paléontologue préféré. Yves Coppens, vous êtes donc avec nous pour la publication des Origines de l'homme, Origines d'un homme, qui paraît donc chez Odile Jacob. Et vous avez donc en face de vous des élèves de 5e du collège Berlioz à Vincennes qui aimeraient bien discuter avec vous. Ils ont beaucoup de questions, tout comme les auditeurs, avec les messages qui arrivent sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque. Yves Coppens, avant de passer le micro à nos jeunes invités, vous qui êtes le père de Lucie, hein, cette petite australopithèque de 3,2 millions d'années, découverte en 1974. Que faisiez-vous bien avant, lorsque vous aviez l'âge de ces collégiens, là, à peu près ?
Bah écoutez, il semble, d'après ma mémoire, de mes mémoires, que j'ai été fasciné très vite par le passé. Alors, dans la région dans laquelle j'étais, c'est-à-dire la Bretagne, il n'y avait pas de dinosaures, il n'y avait pas beaucoup d'ossements parce que les terres sont acides, mais il y avait beaucoup de poteries, il y avait beaucoup de pierres taillées, il y avait beaucoup de pierres levées. Autrement dit, c'est par l'archéologie que j'ai commencé. Mmh. Alors, quelle différence entre l'archéologie et la paléontologie ? L'archéologie est beaucoup plus récente, comme ça, c'est un code, que la paléontologie. J'ai donc commencé par des sites de quelques milliers d'années avant d'aborder les sites de quelques millions d'années.
C'est ça, et voilà. Vous avez changé de terrain pour ça.
Et j'ai changé de terrain pour ça.
On va en parler, mais c'est vrai qu'il y a cette fascination pour les menhirs qui sont tout près de vous, là, à Vannes.
Oui, ben, non seulement à Vannes, mais j'ai réfléchi un peu à ça, même depuis cette écriture. À la Trinité-sur-Mer, ma famille avait une maison de famille à la Trinité-sur-Mer, au bord de la mer, tout près de Carnac. Et là, je me rappelle bien qu'il suffisait de traverser la route, de faire quelques centaines de mètres à peine, et en haut d'une butte qui s'appelait Mané-Roch, Mané ça veut dire la butte, Roch ça veut dire le caillou, la butte du caillou, il y avait un dolmen. C'est-à-dire qu'il y avait quelques belles pierres comme ça debout, et puis une grande table par-dessus. Et ce dolmen, moi, je jouais dessus.
C'est ça, c'était votre terrain de jeu.
Sûrement ouais. Tout petit, oui.
Bon, ben c'est bien, on comprend comment tout ça a imprégné. Alors, les premières questions, parce qu'elles sont nombreuses, donc je voudrais tout de suite qu'on passe le micro à nos camarades du collège Berlioz. Et c'est un jeune homme qui commence. Comment t'appelles-tu ?
Je m'appelle Ivan.
Ivan, c'est à toi. Bonjour,
bienvenue. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être paléo-anthropologue ?
Alors, paléo-anthropologue, c'est un petit peu plus précis que ce que j'avais raconté à l'instant, là. Paléo, ça veut dire ancien. Anthropologue, ça veut dire celui qui étudie les hommes. Donc, autrement dit, c'est l'étude des hommes anciens. Or, quand on fait de la paléontologie, c'est beaucoup plus général. Et on étudie tout ce qui a été vivant et a disparu. Et c'est plutôt paléontologue que j'ai été d'abord, avant de devenir paléo-anthropologue. Parce que, encore une fois, on trouve beaucoup de restes animaux, beaucoup de restes animaux, avant de trouver le premier petit morceau du reste humain, parce que les humains sont moins nombreux que les animaux dans la nature. Donc, il a bien fallu que je commence par le commencement, c'est-à-dire par des vertébrés qui m'intéressaient beaucoup. Et les vertébrés que j'ai préférés, c'étaient les éléphants. Donc c'est par les bêtes à trompe, par la trompe des bêtes à trompe que j'ai commencé. Ouais. Non, pas par la trompe parce qu'il n'y a pas d'os dedans.
Ouais. Et alors justement, comment s'est passé ensuite le passage au côté humain, Yves Coppens?
Le passage s'est fait tout simplement. Je suis parti au Tchad. Là, on quitte la Bretagne, hein. C'est dommage, on la quitte vite.
Non, on va y revenir, vous inquiétez
pas. D'accord. Je suis parti au Tchad en 1960, tout à fait au début, en janvier 1960. Et dès 1961, dès février 1961, je découvrais dans ces grands terrains du Tchad un crâne d'homme fossile de sans doute plusieurs centaines de milliers d'années. Donc j'avais déjà un fossile humain qui me permettait, pour répondre à ce garçon, qui me permettait de passer de la paléontologie générale et la paléontologie des proboscidiens à la paléo-anthropologie, très tôt finalement.
Donc les éléphants, ensuite aux humains.
Oui, enfin les éléphants, je les ai gardés comme non pas comme jouets, hein, mais comme étude aussi. Et puis l'ensemble des vertébrés, parce que l'ensemble des vertébrés a l'avantage d'indiquer quel était l'environnement, donc quel était le climat, donc quel était le milieu. Et donc ça a une importance aussi, bien sûr, pour l'histoire des hommes et la vie des hommes.
Il y a d'autres questions pour vous ? Salut, bon. Jeune homme, à toi.
Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai une question. Quel conseil pourriez-vous donner à un futur paléanthropologue?
Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est un métier qui... Non, c'est pour ceux qui nous écoutent alors. Yves Coppens.
Quel conseil?
Des conseils.
Eh bien, oui, ça m'est difficile de donner des conseils. J'aime pas trop donner des conseils, mais quand même, je vais te dire des choses. C'est un très beau métier. C'est un métier où on est heureux. C'est un métier qui vous comble. C'est un métier où la recherche et le côté extraordinaire de la cohérence de la recherche et de la manière dont se déroule une réflexion scientifique est extraordinaire. Donc, on y est heureux. Il n'y a pas beaucoup de postes. C'est un peu ce qui est ennuyeux, mais il ne faut pas avoir peur de courir le monde, parce qu'il n'y a pas trop de postes en France. Il n'y en a pas trop non plus dans d'autres pays, mais il y en a un peu plus dans d'autres pays aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller faire sa carrière ailleurs. Et puis, ne pas avoir peur surtout de courir le terrain, puisque c'est dans le terrain qu'on trouve les fossiles. Autrement dit, les fossiles, ils ne viennent pas à vous, il faut aller les chercher. Et ils sont sous vos pieds, mais sous vos pieds, et pas forcément ici, dans le bassin de Paris, quoi qu'il y en a. Mais quelque part dans le monde en fonction des recherches que vous voulez faire.
Qu'est-ce qu'on peut trouver d'ailleurs comme fossiles dans notre coin, là, ici, bassin parisien?
D'une part, il y a les alluvions de la Seine. Et les alluvions de la Seine, moi, je les ai fouillées souvent à l'époque où les sablières et les balastières n'étaient pas mécanisées. Et il y a plein de mammouths. Il y a plein de mammouths sous nos pieds.
Ah bon?
Il y a plein de mammouths, il y a plein de bisons. Je suis allé un jour pas loin de Rouen, par la Seine d'ailleurs, par la Seine. Et il y avait un grand morceau de défense qui sortait de la falaise. Et la falaise, c'était des alluvions d'une paléocène, d'une Seine ancienne. Et bien sûr qu'il y a plein de fossiles sous nos pieds. Des aurochs, des bisons, des rennes, des mammouths, des rhinocéros, je te dis pas.
Tout ça sous la maison de la radio, incroyable. On reparlera mammouth avec vous tout à l'heure, Yves Coppens. Jeune homme, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Marin.
Bien Marin, on t'écoute. Quelle est ta question?
À quel âge vous avez fait votre première découverte?
La première découverte, elle m'a été un petit peu offerte, donc c'est pas une vraie découverte, mais quand même, c'était en 48. Pour tout te dire, je suis né en 1934, tu te rends compte? 4, 5, 6, 7, 8, ça fait autour de 13, 14 ans, voilà, à peu près votre âge. Et c'était des tout petits morceaux de poterie très fine, de poterie toute rouge, toute mince, et qui constituaient des pots cassés. Et ces pots, c'était des pots qui devaient récolter l'eau de mer, pour Marin, c'est bien, l'eau de mer pour que cette eau de mer livre le sel qu'elle contenait. Et que dans ces petits pots, finalement, il y ait du sel. Ça a été fait par les Gaulois. Ça a été fait il y a à peu près un peu plus de 2000 années. Et c'était une industrie florissante d'extraction du sel et d'obtention du sel et de vente en même temps, de commerce du sel.
Donc ça veut dire quoi, Yves Coppens? Vous étiez sur une plage du Morbihan, ça s'est passé comme ça, à l'âge de 13 ans, et vous tombez sur ces poteries?
Oui, enfin je tombe pas, mais je suis accompagné par un vieux monsieur, qui avait eu écho de cette découverte et qui, voyant ma passion, mais ma passion jusque-là, elle se passait derrière des vitrines, donc m'a emmené, et c'est la première fois que sur le terrain, j'ai en effet pu recueillir ces petits morceaux de poterie et que j'ai eu un grand bonheur, un grand choc, une grande fascination qui ne m'a pas quitté depuis.
C'est ça. Et à ce moment-là, vous avez dit, c'est vraiment ce que je veux faire. Là, vous avez senti que ça vibrait et qu'il fallait continuer dans cette voie.
Oui, ça préexistait. J'avais envie de faire ça depuis ce genre de choses, ce genre de recherches, ce genre de profession depuis très longtemps. Mais ça n'a fait qu'accuser les choses et que les confirmer.
Voilà. Donc, ça a commencé très tôt. Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Cindy. Quand vous étiez petit, aviez-vous pensé à être paléanthropologue?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand j'étais petit, et je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé le passé, sans doute parce que le passé n'est pas entièrement connu. Donc il y a toute une part de réflexion, il y a toute une part d'imagination, et il y a toute une part de rêve, toute une part de rêve. Et c'est important. Il ne faut pas s'imaginer que la science, c'est juste la donnée, juste l'étude très précise d'un objet particulier. La science, c'est aussi le rêve autour de l'objet pour avoir des hypothèses et puis aller plus loin dans la démonstration et dans la reconstruction du passé. Donc, tout petit, j'ai rêvé.
Et vous rêvez encore. Pardon, je fais la conclusion pour vous, mais j'étais à peu près sûr de la réponse. Yves Coppens, Origine de l'homme, Origine d'un homme, vos mémoires chez Odile Jacob. Vous êtes notre invité dans La Tête au Carré avec nos jeunes camarades du Collège Berlioz.
Product of the block. We used to cook the product in the pot, add soda, turn the product into rock. It's in my DNA, you see, get started with my pops. In his heyday, he probably put your father in the box. In my heyday, I probably put the product in my sock. Ain't no vacay, the props become a problem when it's hot. Mayday, mayday, but no charge. I'm nutty with the bars, that's a payday. So, bruh, this ain't even a bar, this is AA. Back up in the trunk with the AK. Each line pack a fabulous punch, no diss to Ray J. Nah, see, I don't dab and I don't nay nay. Got bottles coming out, warriors come out and play, ayy. Just know I'm grade A, get a slice of bread. Okay, some hoods love me, someone like me dead. Okay, my goon hungry, his eyes is red. Buddy clumsy, go oops upside your head.
We at Dro and Poet Suckers, Range Rovers flood up the rucker. Me a thousand chains on, I got put on with luck. Evergreen baggies, selling capsules, running the classroom. Slick bastards getting cream, yelling cash roll. Smell like Pacquiao, but under the leather. Hold a Mac 10, pumping up in one oak, the Grammy hour. Coke chemist, taste the flow is numb, knees and copper rum, blunting off the get back, salute me, then one, I'm out, off to the races. My blazers ain't patient, they wanna spray, get elephant blown for stalking rape. Jammies carry nitrogen, light up a session like I'm on Vicodin. With the righteous men and we fighting it, yeah, yeah, yeah. The rebels is here, medals and gear, getting fried off a medical, that's incredible. The flyers, the most notorious, why is half of those liars off? Heads like papayas.
Before I poly, red light in the Bob Molly, so I can cipher God bodies from the John Gottis. Everybody a boss saying they time's money. Women injections, leave them with the odd bodies. Babies having babies, wearing old navy, robbing old ladies. That's a product of no home training. I show you the ropes, I'm narrating Al Heyman. I told Lighty if I hate him, I'ma violate him. I'm not a shooter, but I know shooters. And if them shooters don't shoot up, I go suit up. Red man and the W is televised. We ain't the media telling hella lie. This a campfire of a vampire. I don't sleep when hot beats through the amplifier. And they ain't got something to say. I'm like, yeah, okay, y'all corny anyway, doc.
They stiff cause the wisdom is swift when I'm attacking.
Out of everybody getting these deals, you got all these black motherfuckers getting deals. You know what I'm saying? They're getting deals, and everybody got a deal, and everybody happy. And Wu-Tang, we the best.
Wu-Tang Clan avec People Say.
La Tête au Carré. Sur France Inter.
Elles arrivent enfin, vos mémoires, Yves Coppens. Ça fait longtemps qu'Odile Jacob vous demandait d'écrire quelque chose, non?
Oui, j'avoue que j'ai un petit peu traîné les pieds parce que c'est pas facile de se lancer dans une opération aussi longue et puis de creuser dans sa tête pour retrouver des souvenirs. Oui. Mais finalement, une fois que je m'y suis mis, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Beaucoup oui. de plaisir et j'ai retrouvé plein de choses. Et j'ai eu du plaisir à retrouver aussi ces choses.
Pourquoi trois livres en un alors? Parce qu'on a trois préfaces finalement à chaque fois.
Oui, mais j'ai tenu à cette espèce de structure bizarre, tout simplement parce que j'avais dit à Odile Jacob, mon éditeur, je lui avais dit j'aimerais bien faire au moins trois volumes, et elle m'avait dit non, il faut vraiment tout mettre en un. Alors je me suis vengé, au lieu de faire trois chapitres, j'ai fait trois livres.
Voilà, tout le monde a gagné finalement.
Dans un seul livre, ouais. Voilà, c'est ça.
Allez, des questions pour vous, toujours avec nos élèves du collège Berlioz de Vincennes. Bonjour jeune homme.
Bonjour.
Tout en vert, on t'écoute.
Je m'appelle Vincent, comment savez-vous où chercher des fossiles?
Ah oui, ça c'est une très bonne question.
Oui. Ben, c'est tout facile si on peut dire, tu vas comprendre. Il y a des roches qui sont des roches cristallines, comme par exemple le granit, et il n'y a jamais de fossiles dans le granit. Et il y a des roches qui s'appellent des roches sédimentaires, ou des roches détritiques, c'est-à-dire ce sont des détritus, et les détritus, ça tombe dans des bassins, comme des bassines, et comme les fossiles, il faut qu'ils soient emballés pour être conservés, c'est forcément dans les bassines et dans les détritus qu'on les trouve. Autrement dit, je recherche d'abord par un travail géologique ce que l'on appelle les bassins sédimentaires. C'est
vous,
tout simple.
Vous aimez les détritus, alors ?
Et c'est, oui, absolument. C'est ça. Oh, ben, c'est très riche, la détritus.
Mais oui.
Et les bassins sédimentaires, ça se voit au sol, mais ça se voit aussi d'avion, ça se voit aussi en l'air. C'est-à-dire que pour certaines grandes régions, pour certaines grandes recherches, certains grands bassins, j'ai d'abord survolé les régions en question pour repérer les bassins par rapport au massif et pour savoir où je devais aller de manière préférentielle, plutôt qu'ailleurs. Autrement dit, j'ai commencé par regarder ça d'en haut avant de regarder ça d'en bas.
Ouais, voilà. Mais par exemple, Lucie, alors cet Australopithèque, 3 millions d'années, un peu plus, en Éthiopie, comment est-ce que vous avez trouvé le site et est-ce que vous étiez à peu près assuré de trouver une pièce exceptionnelle ou ça a été quand même une part de chance, là ?
Il y a les deux, mais il y a le fait que la géologie dont je viens de parler avait été faite avant moi. La géologie a été faite par un géologue qui s'appelle Maurice Taïeb, et Maurice Taïeb n'était pas du tout porté à faire de la paléontologie, mais sur sa route de géologue, en ramassant des cailloux, il a ramassé un fossile. Ce fossile, il est venu me le montrer. Ce fossile, je l'ai déterminé, c'est mon travail. Et je l'ai déterminé comme étant un reste d'éléphant très ancien, ça tombait bien, une bête à trompe, ouais, que je connaissais bien, et qui avait, à mon avis, entre 2 et 3 millions d'années, ça s'est avéré juste. Donc c'est à partir de cet élément-là et de quelques autres qu'on a constitué, avec Maurice Taïeb, une petite expédition et qu'on est parti sur le terrain. Mais comme je travaillais déjà en Éthiopie depuis un certain temps, je savais que dans ces terrains-là, entre 2 et 3 millions d'années, il y avait des restes de gens de notre famille. Si bien que je me suis offert d'ailleurs le luxe, dans un colloque à Paris, juste avant de partir, de dire qu'on allait trouver restes d'hominidés. Et c'était en juin 73, et les premiers restes, on les a trouvés à l'automne 73, c'est-à-dire quelques mois avant. C'était pas très malin, faut pas être magicien pour dire des choses comme ça, mais c'était amusant.
Un petit coup de poker,
oui,
et finalement vous avez été largement gagnant.
C'était amusant de jeter ça. Ouais.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai une question à poser. Qu'est-ce que vous avez ressenti en découvrant Lucie ?
C'est toujours la même chose, enfin, si j'ose dire. C'est une grande émotion. D'abord une grande émotion parce que découvrir quelque chose, c'est très important. C'est l'intérêt de la fouille. Hein. Quand on fouille, on ne sait pas ce qu'on va trouver, par définition. Et chaque fois qu'on trouve quelque chose, c'est une émotion. Et on s'attend à certaines choses parce qu'on est quand même professionnel, mais on ne s'attend pas à tout. C'est-à-dire qu'on trouve les choses que l'on doit trouver, mais on trouve toujours des choses nouvelles, des choses inattendues et des choses qui posent des questions. Quand en plus on trouve des restes d'humains, enfin en l'occurrence Lucie, elle a beau être préhumaine, c'est quand même une sorte d'humaine, enfin elle est quand même dans nos grands-parents, c'est d'autant plus émotionnant parce qu'on se trouve en face d'une personne. Ouais. C'est assez difficile à expliquer, mais face à un bout d'os, à un bout de caillou, on est quand même face à quelqu'un qui a existé, qui a vécu. Moi, j'avais un grand patron qui me disait « Ne soyez surtout pas philatéliste ». C'était très joli comme expression. Philatéliste, ça voulait dire qu'un os, ce n'est pas un thermoposte. Un os, ça s'articule avec un autre os, et puis avec un autre os, puis ça fait un squelette. Puis sur le squelette, il y a des tissus, il y a des muscles, il y a de la peau, il y a des poils, et puis il y a quelqu'un qui vit. Autrement dit, chaque fois qu'on trouve un petit bout d'os, on a un petit bout d'une personne qui a disparu, mais qui est quand même là. C'est-à-dire que rencontrant Lucie, j'ai rencontré Lucie, quoi. J'ai pu bavarder avec elle et je continue d'ailleurs à lui téléphoner.
C'est vrai, elle va bien, les nouvelles sont bonnes.
Elle est très mignonne, oui. Elle est toujours aussi maigre, c'est ça qui est épouvantable.
C'est vrai, et les os sur la peau, justement, Lucie. Alors, parce qu'on connaît bien cette image, ce squelette de Lucie, mais c'est pas comme ça que vous l'avez trouvé.
Non, bien
sûr. Tous les os étaient répartis et mélangés.
Oui, d'autant plus qu'elle était dans un sédiment, là je reviens à la même chose, un sédiment lacustre. Et dans ce sédiment lacustre, elle a été balayée par de l'érosion, et en l'occurrence de l'érosion probablement de pluie. Mmh. La pluie a creusé le sable, la pluie est arrivée aux ossements de Lucie, et la pluie a commencé à entraîner les os de Lucie le long d'un ravineau, d'une rigole. Et d'une rigole, en l'occurrence, c'était une dizaine de mètres de long sur 50 centimètres de large. C'est-à-dire que tout le long de la rigole, Lucie s'était répandue en quelque sorte. Et c'est en remontant la rigole qu'on est arrivé à l'endroit d'où elle avait été extraite. Et c'est pour ça qu'on a ramassé 52 ossements seulement sur 206, parce que la pluie avait déjà fait son ravage et avait déjà...
206, c'est le nombre d'os d'un squelette, entier. Hein.
Du tien, Mathieu.
Voilà, c'est ça.
D'après ce que je vois.
Il n'en manque pas, a priori. Allez, d'autres questions dans ce studio. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Vincent et j'aimerais savoir quels critères vous utilisez pour différencier un squelette de singe de celui d'un hominidé.
Bravo pour les questions.
Oui, c'est très intéressant. Les hominidés sont des êtres qui sont debout. De toute façon, les singes et les hominidés, comme tu dis, ont la même origine. Hein. Donc, il y a plein de points communs. Ceci étant dit, comme les hominidés vont vivre dans un milieu découvert, pour s'adapter à ce milieu découvert, ils se redressent, ils se mettent debout. Alors, les singes sont quelquefois debout, mais pas tout le temps. Tandis que les hominidés sont tout le temps debout. Ils sont debout en permanence, et ça se voit dans leur squelette. Ça se voit dans l'articulation de leurs membres, ça se voit dans leur bassin, ça se voit dans leur colonne vertébrale, ça se voit dans la position de leur crâne. Et les tout premiers, en fait, sont curieusement, et c'est merveilleux pour des paléontologues, un petit peu arboricoles, un petit peu grimpeurs comme ceux d'avant, et un petit peu marcheurs comme ceux d'après. Lucie marche, pas très bien, enfin elle fait ce qu'elle peut, elle marche un peu quand même.
C'est-à-dire qu'elle est un peu bipède ?
Ah, elle est bipède. Ouais. Elle est incontestablement bipède en permanence quand elle est à terre.
Mais arboricole aussi.
Mais elle continue à grimper, oui. Et elle grimpe très très bien. Hein. Elle est très très agile à grimper.
Allez, d'autres questions. Jeune fille, qui veut commencer ? Le jeune homme, là, par exemple. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Adrien et je voudrais vous demander, est-ce que vous avez déjà été découragé lors d'une fouille de ne rien avoir trouvé ?
Ben, j'ai honte de ce que je veux dire, mais jamais.
C'est vrai ?
Jamais, parce que les fouilles sont toujours intéressantes et je ne suis jamais rentré bredouille. Quand on fouille, on trouve toujours des choses. Songe une toute petite histoire. Sous nos pieds, là, ici où nous sommes, sous nos pieds, ont vécu des milliers de gens. Donc, ont vécu des milliers de cultures. Et ces cultures ont forcément laissé des restes qui se sont conservés. Par exemple, un exemple tout récent et que je tiens de l'INRAP, de l'Institut de Recherche Archéologique Préventive, on a fait un canal, il n'y a pas longtemps, un canal d'un peu plus de 100 kilomètres sur le nord de la France pour des gros bateaux et des gros transports. Et ce canal a été creusé sur une centaine de kilomètres, 107 kilomètres, je crois. Eh bien, sur ces 107 kilomètres, 300 sites archéologiques ont été découverts. Ouais. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il suffit de creuser, on ne peut quand même pas creuser n'importe où, mais 300 sites ont été découverts et 98, c'est quand même considérable, près de 100 ont déjà été fouillés.
Donc c'est un métier d'avenir, archéologue. Il y a toujours du boulot, en tous les cas, pour tous nos jeunes invités.
L'avenir est au passé, quoi.
Allez, on se retrouve dans un instant, Yves Coppens. D'autres questions pour vous sur France Inter à l'occasion de cette tête au carré exceptionnelle autour de vos mémoires. Origine de l'homme, origine d'un homme chez Odile Jacob.
A pris leur place, alors elles s'effacent. Quand les vérités sont banales, elles s'étalent dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent sur le dos des baleines. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes insistent sous les flots qui m'entraînent. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. Mobis, une ville, Mobis.
Mobilis Inmobilé, l'affaire Louis Trio.
La tête au carré sur France Inter.
Yves Coppens, origine de l'homme, origine d'un homme, vos mémoires chez Audi Jacob. Et comme je sens que vous aimez répondre à notre jeune public, je vais leur laisser la parole tout de suite avec deux nouvelles questions. Bonjour jeune fille, tout en rose.
Bonjour, je m'appelle Shani. J'ai une question à vous poser. En fait, quand vous trouvez les fossiles ou les squelettes, ils sont en entier ou... Et où est éparpillé ?
Alors, ça dépend de leur âge, si je puis dire. Quand les squelettes sont conservés par la nature, c'est-à-dire dans des sédiments de rivière, par exemple, ou dans des sédiments lacustres, par exemple, ils sont en général un peu chahutés, donc on trouve un os par-ci, un os par-là, ils ne sont pas entiers du tout. Quand c'est un peu plus récent, quand depuis 100 000 ans quand même, les ossements, les êtres humains ont été enterrés. Et quand on les trouve dans leur tombe, là, ils sont entiers. Par exemple, l'homme de Néandertal, qui est bien connu, hein, qui est un vrai homme fossile, celui-là, on le trouve dans ses tombeaux, c'est-à-dire qu'en général, on trouve l'ensemble du squelette. Et de manière tout à fait exceptionnelle, en Afrique du Sud, il y a un petit squelette de l'époque, enfin, non, un petit personnage de l'époque de Lucie, qui est tombé au fond d'une grotte. Et moi, je suis allé le rejoindre au fond de la grotte. Ça s'appelle Sterkfontein, et c'est loin là-bas, du côté de Johannesburg. Eh bien, comme il est tombé, il s'est trouvé prisonnier au fond de la grotte. Il s'est agité beaucoup, mais il n'a pas réussi à survivre. Il est mort au fond de la grotte. Et du même coup, on a trouvé presque tout son squelette. C'est aussi vieux que Lucie, et c'est beaucoup plus complet que Lucie, parce que, on a eu la chance.
Les circonstances étaient différentes.
De le trouver dans un milieu où il n'a pas pu, dont il n'a pas pu échapper.
Jeune fille, bonjour. Quel est ton prénom ?
Bonjour, je m'appelle Tiffany et je voulais demander, parce qu'on vous parle tout le temps de Lucie, mais est-ce qu'il vous arrive d'en avoir marre qu'on vous en parle ?
Ça me gêne de dire ça devant Lucie qui nous écoute. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que je n'ai rien fait avant, ce qui est embêtant, et on a l'impression que je n'ai rien fait depuis, ce qui est aussi embêtant. Or, j'avais bien sûr trouvé bien des choses avant, d'une part...
Quelle a été vraiment votre première belle prise, justement, Yves Coppens?
C'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est ce premier crâne fossile découvert au Tchad en 61. Et c'est toujours intéressant parce que la première découverte marque plus, bien sûr, sans doute, que les autres. Et ensuite, il y en a une autre, hein, en 67, en Éthiopie. J'ai trouvé aussi des restes importants, des restes qui étaient à ce moment-là les plus anciens. Quand même 2 millions 6, on n'était pas à 3 millions 2.
Mais ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
6, c'est pas mal. Et l'empereur d'Éthiopie, d'ailleurs, m'a remis sa médaille d'or, enfin j'en suis fier, c'est pour ça que j'en parle, en 73, c'est-à-dire avant Lucie. Ouais. On dit c'est Lucie qui a tout fait, c'est pas vrai. Avant que Lucie ne soit découverte, parce que le malheureux empereur est mort justement en 74, le pauvre. Et c'est l'année d'avant qu'il m'avait remis la médaille pour cette découverte, ouais, que nous avions appelée, avec un vieux patron qui s'appelait Camille Arambourg, que nous avions appelée Australopithecus Éthiopicus, Éthiopicus. Mmh. On avait donné le nom d'Éthiopie à ce fossile de 2 millions.
Et après Lucie, alors il y a eu d'autres choses.
Alors après Lucie, ce sont ou des collègues comme Michel Brunet, ou des anciens élèves devenus aussi collègues comme Brigitte Senu, qui ont fait des découvertes importantes et qui très courtoisement m'ont associé à leur découverte. C'est-à-dire que j'ai signé Abel de Michel Brunet, 3 500 000 ans. J'ai signé Toumaï avec Michel Brunet, 7 millions d'années. Et j'ai signé Aurine avec Brigitte Senu, 6 millions d'années.
Yves Coppens, petite parenthèse, Michel Brunet était avec nous la semaine dernière autour de cette polémique, autour du fémur justement de Toumaï, ce fémur soi-disant caché. Quel est votre point de vue sur cette affaire concernant justement votre copain Michel Brunet?
Mon point de vue, c'est que c'est Michel Brunet qui a trouvé cet os, ce fémur si fameux, devenu si fameux, malgré lui. Et donc, c'est à lui de décider quoi en faire. Vous savez, la recherche est longue, songez que, je veux dénoncer personne, mais Tim White, qui est un collègue américain, a quand même trouvé Ardipithecus, un autre fossile contemporain, à peu près contemporain de Toumaï, en 1994. Et il ne l'a publié dans Science, par 11 articles superbes d'ailleurs, qu'en 2011. C'est-à-dire qu'on lui a fichu la paix, on lui a laissé le temps de travailler.
Donc vous dites aussi la même chose, il faut laisser le temps à
la
science.
Oui, c'est ça. C'est, la déontologie voudrait que celui qui trouve un fossile détient ce fossile. Il en a la possession, propriété morale. Et c'est à lui de faire sa recherche, c'est à lui de se prononcer.
Toumaï était bipède sans aucun doute pour vous ou pas?
Ben ça, c'est à l'étude de ce fémur qu'il reviendra de le dire.
Donc vous attribuez ce fémur à Toumaï, ce qui n'est pas le cas de Michel Brunet, hein. C'est pas ce qu'il disait à Spicrola.
On n'en sait rien, vous savez. C'est la première hypothèse, en effet, quand on trouve sur un terrain bien séparés l'un de l'autre, le crâne et le fémur. On ne sait pas si le fémur se rapportera au crâne. Si vous avez votre patte à 100 mètres de votre tête, c'est pas sûr que la patte soit attribuable à la tête. C'est la tête et les jambes, vous savez, une fameuse émission de télévision. Là. Ça marche pas toujours ensemble, quoi.
Allez, on termine avec d'autres questions. Il nous reste 3 minutes, donc on va essayer d'en prendre au maximum. Qui veut intervenir? Jeune homme, voilà, avec le micro rouge, bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Adrien et ma question était, pensez-vous que les modifications génétiques influenceront l'évolution humaine?
Bien sûr, bien sûr. Alors les modifications génétiques, elles sont naturelles. Il y a une évolution qui continue son chemin, qui est souvent à bas bruit, parce que depuis 3 millions d'années, nous avons inventé la culture, nous avons inventé l'environnement culturel, et l'environnement culturel répond beaucoup plus vite que l'environnement naturel, que notre corps, que notre biologie, aux sollicitations du milieu. Ceci étant dit, nous n'en évoluons pas moins et nous ne nous transformons pas moins, c'est-à-dire que ton allure, là, ton look et le mien seront différents d'ici quelques dizaines, centaines de millions d'années peut-être. On aurait tout d'un coup une projection de l'image de nos descendants à toi et à moi, dans 100 000 ans, à plus forte raison, 100 millions d'années.
Ah, ce serait génial.
On serait très étonnés. Hein. Ouais. Oui, ce serait génial.
Allez, une dernière question peut-être. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Manaïl. En devenant paléanthropologue, pensez-vous un jour avoir autant de succès?
Écoute, oui, il n'y a pas de raison, oui.
Il n'y a pas de raison.
Le succès, il ne faut pas se laisser faire non plus. Il est éphémère d'abord. L'intérêt scientifique est très important. Et c'est le véritable succès. Autrement, dans la mesure où ça touche à l'humain, comme nous sommes des humains, le succès est d'autant plus important parce que ça intéresse tout le monde. Et d'autre part, lorsqu'on aime bien les gens, ce qui est mon cas, je vous aime beaucoup, quand on aime bien les gens, on va leur raconter ce que l'on trouve, ce que la science pense avoir découvert, et on essaye de transmettre le mieux possible, le plus simplement possible, pour que les gens que vous aimez comprennent et aiment ce que vous faites, et puis finalement, vous aiment. Merci de m'aimer.
Est-ce que, à plus de 80 ans, puisque vous avez donné votre âge tout à l'heure, Yves Coppens, vous continuez les fouilles? Vous êtes toujours sur le terrain?
Ah, bien sûr, oui.
Vous recherchez toujours des fossiles?
Ces mémoires, ce sont les mémoires de mes 80 premières années.
Allez, une dernière question, très vite, puisqu'on a le temps. Encore une toute petite minute, c'est à toi, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Pacôme.
J'ai une question pour vous. Après toutes ces années d'expérience, qu'avez-vous appris de...
D'important.
Bah, oui, d'important, bah, oui, surtout.
Oui, j'ai appris que la vie était superbe, que l'essentiel dans la vie était très peu de choses par rapport à l'accessoire. Je veux dire qu'on se fait des soucis quelquefois pour des choses de rien du tout, et il faut bien réfléchir à ce qui est important, important, très important. Ce qui est important, c'est la santé. Ce qui est important, c'est l'affection. Ce qui est important, c'est les relations avec les autres que vous avez autour de vous, que tu as autour de toi. Et autrement, ce sont des petites broutilles, des petits soucis, des petites histoires quotidiennes qu'il faut bien sûr traiter, mais il ne faut pas s'en faire. La vie est toujours superbe et il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas dans l'avenir.
Et ceux qui sont importants, c'est ceux qui transmettent aussi, puisque vous rendez beaucoup hommage hein, à tous ceux qui ont compté dans votre parcours et vos professeurs, en particulier Yves Coppens. Voilà, j'aimerais qu'on applaudisse, nous, les élèves, Yves, qui ont posé ces questions. Chapeau, c'était de grande qualité. Voilà, les élèves du collège Berlioz à Vincennes. Mais vous restez avec nous parce qu'on a le docteur Dupin qui vient de nous rejoindre.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupin.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Et votre chronique en public sera donc musicale aujourd'hui.
Oui, je vais vous parler des publications scientifiques qui évaluent l'impact de la musique d'ambiance hein, sur la qualité de travail des médecins.
Vous voulez nous dire que les médecins travaillent en musique ?
Ouais, enfin surtout les chirurgiens.
Hein.
C'est une pratique très ancienne. Hein. Les Romains stimulaient déjà leurs soldats en faisant sonner des instruments de cuivre et ça pouvait ressembler à ça. Vous connaissez ça, hein ? Bon, c'est le générique de Kaamelott. Alors, cette stimulation des soldats par la musique est parfaitement illustrée par une scène culte du film Apocalypse Now, la charge des hélicoptères au son de la chevauchée des Walkyries.
La musique ? Oui, je prends du Wagner !
Non mais ça c'est terrifiant.
Terrifiant, terrifiant. Woody Allen dit toujours que quand il entend du Wagner, ça lui donne envie d'envahir la Pologne, c'est à peu près ça. Mais passons maintenant au médecin avec un son qui constitue une excellente transition.
Est-ce que vous avez reconnu dans le public ? Qu'est-ce que c'est quoi ?
Star Wars, évidemment. Exactement, exactement. Eh bien, cette musique particulièrement a permis d'améliorer la performance des médecins qui font des coloscopies. Dans une étude dite randomisée, on a détecté dans le côlon de leurs patients deux fois plus de polypes que celui qui écoutait de la banale musique d'ascenseur. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose
hein, oui,
parce que
vrai.
Finalement, ces musiques militaires, c'est conçu pour stimuler la quête de succès, de gloire. Et il est possible que les médecins, conditionnés par la marche impériale de Star Wars, aient voulu à tout prix trouver quelque chose, quitte à qualifié de polype, un petit bout de chair de rien du tout qui traînait par là. Personnellement, je n'aimerais pas subir une coloscopie dans cette ambiance musicale guerrière.
Oui, moi non plus d'ailleurs. Que disent les autres publications, cher Dominique ?
Il y en a plein en fait. Hein. Dans une autre étude de bonne qualité, des chirurgiens esthétiques ont travaillé successivement avec ou sans une musique de leur choix et la musique a eu un impact positif sur la qualité et la rapidité de leur point de suture. Alors, notez que ces chirurgiens avaient choisi des morceaux plutôt rythmés et cette préférence est confirmée par un éditorial de synthèse publié dans le British Medical Journal, qui recommande comme premier choix musical...
Yves Coppens, vous avez dansé là-dessus, je suis sûr.
Ça peut vous faire.
Alors, je ne sais pas si les jeunes connaissent. Hein.
Vous connaissez ça ou pas ?
Ouais,
c'est
bon.
C'est qui ?
Les Bee Gees,
Bee Gees, exactement. Alors c'est vraiment quelque chose d'entraînant. Hein. Et alors, avec l'humour particulier qui caractérise les Anglais, l'auteur scientifique note que si le patient fait un malaise grave pendant l'opération, ce morceau sera absolument parfait pour rythmer le massage cardiaque, hein, c'est le bon rythme. Prenons exemple sur le célèbre tutoriel sur YouTube qui utilise ce morceau des Bee Gees pour aider les secouristes à mémoriser le rythme idéal du massage. Allez voir ce tuto, c'est génial.
Voilà, la vidéo est sur la page de La Tête au Carré. Un petit coup de Bee Gees encore parce qu'on aime ça. Hein. Voilà, très bon pour le massage cardiaque, les Bee Gees et Staying Alive. Voilà, merci beaucoup Dominique Dupagne. Merci à tous les élèves, passez une très bonne journée. Merci de nous avoir rejoints ici. Et puis Yves Coppens, origine de l'homme, origine d'un homme. Vos mémoires chez Audi Jacob, à bientôt.
Oui, quand même, je vous ferai remarquer que Lucy in the Sky, ça accompagnait aussi
les Beatles.
Au ramassage de fossiles. Hein.
Absolument.